Okay, so my name is David Endelman from Tel Aviv University School of Physics and Astronomy. I will say a few words in French. This is not my native language, and then I will switch to English because first it's faster, and then there are also some people maybe that do not speak French. Alors pour moi, c'est vraiment un moment très spécial parce que j'étais un postdoc dans cet établissement, dans le Collège de France, il y a 34 ans, pendant 2 ans. Et il y a beaucoup de boucles qui se ferment aujourd'hui. Moi, j'étais postdoc dans les labos du professeur Pierre-Gilles Desgenes, qui j'imagine que vous connaissez très bien. Et Guy Deutscher, qui va parler après moi, était une des premières étudiantes du professeur Desgenes à Orsay. Et aussi Didier Roux, qui aussi va parler dans cette session. Bon, on se connaît aussi pendant plus que 30 ans. Et alors, pour moi, c'est des moments très spéciaux d'être ici, dans cet établissement. OK, so I will continue in English. And so I would like to start with a small detour. What do physicists do when they get older and they retire, like some of us already did, and I'm on the way. Yeah, I'm a few years and I'm there. So there are basically, I looked about other very famous physicists, and there are basically two types of questions that retired physicists like to ask. One is to think about the past. So this is, for example, an example from Erwin Schrödinger, one the founder of wave mechanics in the 1920s. And there is a very famous book that he wrote based on lectures that he gave in 1943 in Dublin, in Trinity College. And this is called What is Life? The other example is an example of Freeman Dyson, again, another famous physicist related to quantum electrodynamics. And he wrote a book some years ago about origin of life. So this is one type of question. The other type of question, when not only physicists, but probably most of us get older, is we worry about the future generation. So, you know, where are we going? What are we giving? What type of world are we giving to the next generation? And of course, the question of energy and the environment are essential to this present that we carry on from the previous generation and forward to the next generation. So you can see here covers of 8 books, all of them dealing with problems of current day's energy problems, climate problems, renewable energy. I would say that I think that maybe 6 out of 8 of those books are written by physicists and even 1 or 2 by Nobel laureates. And what is the common of all these books? That they are on the reading list of another retired person, Bill Gates. So, of course, you are invited to read those books. I will make some comments about one of them later. So let's assuming that you don't know too much about this topic, my short introduction basically will serve as to set the ground for the talks later by Guy Deutscher and Didier Roux. So, first of all, what are the main players? So the main players are the type of energy that are used nowadays for example, to produce electricity or other things. And one separates the energy between fossil fuels, charcoal, oil, natural gas, which is basically the vast majority of the energy used nowadays, with the known problem, the CO2 production, and the fact that it's non-renewable, so we it's a reservoir that is going to end sometime. The other one is biomass, which again is producing CO2, but it can be in some sense it is renewable. The third one is nuclear energy. This is, in some sense, although some people probably will jump on me, I would say that this is a green energy. But in France, people are still, I mean, this notion is still, I think, quite accepted. But of course, in other countries, nuclear energy is something that people do not want to hear about it. But in any case, this is a non-polluting, non-CO2 producing energy. And of course, it's also non-renewable because it uses some resources, some natural resources. And finally, the renewable and non-producing CO2 are the energies that you know, the energy, especially the sun and the wind, that are increasingly used nowadays to produce, for example, electricity. But I think Guy Deutscher will also tell us about some low-tech application of sun energy that is used for many years, for example, to heat water. So in terms of energy for the future and our world, so I collected here four questions about important issues, which will be addressed by my two colleagues. The first is how to meet the increasing global energy demand. And there are three key issues for this increase in demand. The first is that the world is becoming more and more populated. Some people project that in 2040 there will be 9 billion people on Earth. The other is, of course, the economical growth, especially of the emerging country, and India and China are big players in this emergence, because they are still not at the level of energy, average level of energy like per capita like the developed countries. And the third issue is urbanization. So, for example, even nowadays, about 100 million people are migrating from villages to cities every year, 100 million. And this, of course, is producing much more energy, consumption of energy. The second problem is whether we can get rid of this addiction to fossil fuel. Irrespective of how much there is left, this is a type of energy, as, for example, Guy will tell us, that is causing a lot of problem, especially in the fact that one is producing a lot of CO2, and the level of CO2 in the atmosphere is increasing in alarming pace. And of course, what are the other scalable and viable sources of energy? They are very nice sources of energy, but they cannot be scaled up to the global energy consumption and production. Some applications are limited in their use to very specific one, and in the one that are scalable, so we can name, for example, the renewables and the nuclear. Didier will talk, I think, about the energy for the future. So I named here a few of his points. The mix of energy and energy supply and demand. This mix is not constant over time, but has to be adapted. Energy planning is a very long process, much longer than the average life of a politician, 30 years or more. And of course, that this is causing lots of problems. If you want to plan something ahead, you need really to think now, 30 years ahead, like what we are now observing are things that were planned 30 or even more years before. Renewable energy have a very big problem of storage. I think that Didier will mention that. There is a need to adapt the electricity grid. And as I mentioned before, nuclear energy gets a lot of bad publicity and even some type of fake news. But actually, it has big advantage, especially in the intermediate time scale, where this can serve as some type of a bridge towards other type of renewable energies. Guy will talk more about the environment, and especially about the production of CO2, climate changes, and the environment in this age where we are producing so much CO2. And this is a notion that Guy called, he even wrote a book about that, the entropy crisis, and I'm sure that he will tell more about that. I would like to finish my short introduction by mentioning a a physicist, David McKay from Cambridge. The book that you see here, he published 2009. It was one of the 8 books that I mentioned before. Unfortunately, David passed away 2 years ago. And he was one of these physicists that dedicated the last decade of his life to work on what he called in this book, sustainable energy without the hot air. Without the hot air, it's meaning that there is lots of simple facts that people are not fully aware of, when even if they work in this field. And I think it's the duty of physicists to actually enter into this field if they are not there anymore or if they are not going to retire soon, and clear a little bit the turf in terms of basic science and basic research done in this field, which of course attract many people who some of them simply don't know what they are talking about, and some try to use this vehicle to take it to some other direction which are completely not related to the big problem we have ahead. Okay, so I will stop here, and I will invite Guy Deutscher to give the next talk, and then Didier. Is this the order that it's okay? Yeah?
We decided.
Yeah. Okay, thank you.
I'll switch back to French, which is still my preferred language, in spite of a few changes during my lifetime. Après cette introduction de David, je crois que le point principal que je voudrais essayer de faire, c'est que il y a eu un changement très profond dans notre relation à ce qu'on appelle le problème de l'énergie. Il y a quelques années, il y a 30 ans peut-être, on avait craint qu'il y ait une pénurie d'énergie. Et c'est ce qui a dirigé l'attention des politiciens, et c'est pour ça qu'on a créé l'Agence internationale pour l'énergie. C'était pour prévenir cette crise. Aujourd'hui, si vous regardez par exemple les accords de Paris de la COP21, vous ne trouverez aucune mention d'un manque possible de ressources d'énergie, ni de pétrole, ni de gaz, ni de rien du tout. Par contre, il y a des sujets nouveaux qui sont apparus. Vous en avez tous entendu parler, le réchauffement climatique ou le changement climatique, les pollutions, etc. Ce sont les nouveaux thèmes qui sont apparus. Et pour le moment, on n'est plus dans cette idée qu'on va manquer d'énergie, pas dans le futur prévisible, c'est d'un autre type de danger dont on parle, et c'est de ça dont je vais vous parler. Ce que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise en 2016 pour l'inauguration d'un champ photovoltaïque en Israël. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière et regarder un peu du côté gauche, là. C'est l'histoire des chauffe-eau solaires en Israël. J'aime beaucoup cette histoire parce que, d'un côté, elle a ce côté pionnier d'Israël des années 50. Il y a aussi la physique, parce qu'il y a un excellent physicien anglais qui a fait son allié en Israël en 1950, qui a inventé une espèce de peinture, pas une peinture, c'est un dépôt sélectif qui absorbait fortement dans le visible et qui ne radiait que dans l'infrarouge. Et il a pu augmenter de cette façon le rendement des chauffe-eau solaires. Il a été soutenu par Ben Gurion. Ben Gurion était un grand fanat d'énergie solaire. Il a créé un laboratoire pour Harry Tabor, qui est devenu très célèbre. Et ça continue aujourd'hui. Ces fameux chauffe-eau solaires produisent à peu près 3% de l'énergie totale consommée en Israël. Ce n'est pas seulement l'énergie électrique, c'est l'énergie totale. C'est déjà un chiffre tout à fait respectable. Mais maintenant, du côté droit, 2016, le champ de panneaux photovoltaïques, c'est une autre ère, et cette fois-ci, on le fait pour une autre raison. La raison pour laquelle Ben Gurion était un grand fanat de l'énergie solaire, c'est qu'à l'époque, il y avait un embargo sur le pétrole. Israël ne pouvait pas acheter de pétrole. Personne ne voulait lui en vendre. En plus, il n'avait pas d'argent. Ça, c'est une autre question. Et Ben-Gurion se faisait énormément de soucis. On est en 1950. Et il cherchait par tous les moyens à augmenter l'énergie disponible pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle il a soutenu Harry Tabor à cette époque. C'est l'alliance d'un besoin de physique, parce que Tabor a eu cette idée très géniale d'un revêtement sélectif, et puis d'une volonté politique de réaliser quelque chose. C'est les trois ensemble qui ont fait cette petite révolution qui continue jusqu'à aujourd'hui, et en fait qui s'est même renforcée, parce qu'à l'époque, quand moi je suis parti en Israël en 70, on ne savait pas très bien si économiquement c'était intéressant ou pas intéressant de mettre un chauffe-eau solaire, ça dépend d'un tas de paramètres. Et finalement, dans les années 80, la Knesset a passé une loi. Elle a résolu le problème une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de construire pour un immeuble allant jusqu'à 10 ou 12 étages si vous ne mettez pas de chauffe-eau solaire sur le toit. Et le problème a été résolu une fois pour toutes. Donc, c'est la volonté politique, une fois de plus, qui s'exprime. Je prends ça comme un exemple de ce qu'il faudrait faire à l'avenir dans ce domaine et dans d'autres domaines. Voilà, donc c'est l'histoire de l'embargo, il n'y en a plus, heureusement. C'est l'histoire de la création de l'Agence internationale pour l'énergie, et c'est le passage aujourd'hui au rôle nouveau des renouvelables. Ce qu'on a appris renouvelable à l'époque, au début, c'était, on les appelait renouvelables parce qu'on avait la crainte d'une pénurie d'énergie. On continue à les appeler renouvelables, mais pour une autre raison. C'est parce qu'en réalité, ce qu'on entend par là, ce sont des sources d'énergie qui sont non polluantes. Ce n'est pas tellement le côté renouvelable qui nous inquiète. Il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de tout ça. Mais c'est le côté non polluant. Il faut limiter les émissions de CO2. Alors, la pollution au CO2. Je vais vous montrer tout de suite un graphique dans une seconde. Vous allez voir que la concentration en CO2 dans l'atmosphère est la même partout sur la planète, où que vous soyez. Et vous souffrez de ce CO2, que vous soyez au pôle sud, où il n'y a aucune industrie, aucune émission de quoi que ce soit, autant qu'à Paris ou n'importe où au monde. Et ça, pour un physicien, c'est une chose extraordinairement magnifique, parce que c'est une preuve expérimentale à l'échelle de la planète de la loi de Boltzmann. Alors, la loi de Boltzmann, je vous l'ai résumée en une phrase ici, elle dit essentiellement que si vous émettez des molécules dans un gaz, ces molécules, elles vont explorer toutes les positions possibles et vous ne pouvez plus l'empêcher parce que le système arrive à un état d'énergie libre, qui est plus favorable. En termes de physique, l'entropie augmente, le désordre moléculaire augmente et l'énergie libre diminue. Donc, vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas la peine d'essayer de se battre contre ça, on n'y va pas. On ne peut pas faire un embargo sur le CO2. Ce n'est pas possible. Alors, voilà ce graphique. Vous voyez en rouge la courbe de l'augmentation de la concentration en CO2 en fonction du temps. Ça va jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, on arrive même encore un petit peu plus haut. En rouge, c'est dans les pays chauds, et en bleu, c'est dans les pays froids. Et c'est pareil partout. Il y a des stations où on mesure les CO2 partout sur la planète. Et partout où on fait cette mesure, c'est le même résultat. Vous n'y pouvez rien. Boltzmann a gagné. Et ce n'est pas trivial, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque où il a vécu, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'existence même de molécules était contestée. Ça, sur le plan de la physique, c'est très intéressant. Il y a de grands physiciens qui ne croyaient pas du tout à l'existence des molécules. Boltzmann a été combattu très sévèrement. Bon, il a du reste fini par se suicider, mais ce n'est pas tout à fait clair s'il n'était pas aussi un dépressif. Mais enfin, il n'a pas été reconnu de son vivant. La controverse n'a été close que grâce à un papier d'Einstein en 1905, sur le mouvement brownien. Ça a clos la discussion une fois pour toutes. Mais jusque-là, c'était très controversé. Mais ça, c'est la preuve qu'il avait raison. Elle est là. n'y a pas de discussion possible. Maintenant, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère en fonction du temps, voilà des data que vous trouvez sur l'Internet ou n'importe où. Vous voyez que jusque dans les années 1800-1850, ça reste plat, aux environs de 280, et tout d'un coup, ça commence à grimper. Et ça grimpe d'une façon dramatique. Aujourd'hui, on arrive à 400. Et il n'y a aucun doute que cette augmentation est concomitante à l'augmentation des températures. L'augmentation des températures, vous voyez, elle est sensible, particulièrement à partir de 1975, par là. Et ça coïncide assez bien à l'augmentation du CO2. Alors, d'où est-ce que ça provient? On va le voir dans un instant. Mais en attendant, voilà pourquoi, voilà la façon dans laquelle la nature contrôle la concentration du CO2 dans l'atmosphère. C'est par le phénomène de photosynthèse. Vous avez ici un relevé de la concentration en CO2 sur une période d'une année. À gauche, vous voyez que ça augmente. À droite, vous voyez que ça diminue. Et dans des proportions assez importantes, qu'est-ce qui se passe? En été, il y a la photosynthèse qui fonctionne. Le CO2 est extrait de l'atmosphère. Il est transformé en bois, en gros. Et puis, en hiver, c'est la survie. Le végétal, le bois, il consomme les sucres qu'il a emmagasinés pendant l'année pour survivre. Et si vous regardez ce qui se passe sur une échelle de plusieurs années, vous voyez très bien ces oscillations, et vous voyez aussi très bien que la photosynthèse ne peut pas ou ne peut plus contrôler l'augmentation continue du CO2 dans l'atmosphère. Ça n'est plus possible, ça ne marche plus. À partir de quand ça s'est produit? En fait, ça s'est produit à partir du moment où le pétrole est devenu le combustible universel. C'est dans les années 70. La rupture d'équilibre se situe à peu près au moment où la quantité de carbone qui est rejetée dans l'atmosphère dépasse en gros 1 ou 2 gigatonnes. Aujourd'hui, on en est à 10 gigatonnes. On est très, très, très au-dessus de ce que la nature peut recycler. La nature, le soleil, l'eau peuvent recycler jusqu'à au maximum 2 gigatonnes. On en est aujourd'hui à 10 gigatonnes. Si on voulait revenir à l'équilibre, il faut passer de 10 gigatonnes à 2 gigatonnes d'émissions. C'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, pour ne pas dire de la catastrophe. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça et où se placent les renouvelables et d'autres mesures possibles pour essayer de revenir à l'équilibre? Alors, il s'agit bien d'un problème de retour à l'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation des températures, il s'agit probablement aussi de l'instabilité du climat. Il s'agit encore de bien d'autres choses. Je n'ai pas parlé des pollutions aux particules fines, de toutes les formes de pollution des eaux, des fleuves et tout ça. Ce sont toutes ces pollutions sont des formes de l'augmentation de l'entropie due à la diffusion des molécules partout. Une fois qu'elles sont lâchées, vous ne pouvez plus arrêter. Ça continue. Alors, comment peut-on lutter contre ça? Didier va, dans un moment, vous donner quelques pistes possibles. Si on parle du photovoltaïque, par exemple, alors, effectivement, les panneaux photovoltaïques, comme vous l'avez vu sur le premier transparent, ils ont des avantages intéressants. Le rendement est plus élevé que celui des végétaux. Les végétaux transforment à peu près 1% de l'énergie solaire incidente éventuellement en combustible. Les panneaux photovoltaïques, c'est 20%. Donc, ils sont beaucoup plus efficaces. Ça veut dire que sur une surface donnée, vous pouvez générer beaucoup plus d'énergie avec les photovoltaïques qu'en plantant des forêts. En plus, vous n'avez pas besoin d'eau. Pour faire de la forêt, il ne faut pas seulement du soleil, il faut aussi de l'eau. De l'eau, il n'y en a pas partout, et en particulier dans les déserts, il n'y en a pas. Par contre, vous pouvez mettre des panneaux photovoltaïques dans le désert, obtenir un rendement important, c'est très atteint. Et puis finalement, au fil des années, en particulier grâce aux efforts de la Chine, les coûts de production de ces panneaux voltaïques ont énormément diminué. En termes de coûts réels, en dollars actualisés, je crois qu'ils sont aujourd'hui 30 fois plus faibles que ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Donc ça a été vraiment une descente extraordinaire et on peut presque dire qu'aujourd'hui on vous les donne pour rien. Et alors quel est le problème? Si tout est si magnifique, quel est le problème? Le problème, c'est tout simplement que le soleil, il n'y en a pas tout le temps, il n'y en a pas tout le temps partout, et il faut stocker l'électricité. Alors ça, Didier va probablement en parler tout à l'heure, mais si on n'a pas une politique intelligente, concertée pour développer le stockage de l'électricité, on va être très vite limité pour ce qu'on pourra faire à l'aide des photovoltaïques. C'est juste un problème central. Oh, je vais faire un petit détour par Carnot, mais je vais le faire très vite parce que je crois que le temps presse. Il n'y a pas de chemin, alors on ne sait pas où on en est, c'est embêtant. D'un autre côté, on peut faire ce qu'on veut, donc c'est pas mal non plus. J'ai rappelé Boltzmann. Je suis un grand admirateur de Boltzmann, comme vous l'avez compris, mais je suis aussi un grand admirateur de Sadi Carnot. Pourquoi est-ce que je suis un si grand admirateur de Sadi Carnot? Parce que c'était un type absolument génial. Pendant que les Anglais fabriquaient des machines à vapeur, lui, Sadi Carnot, c'était un théoricien et il a compris quels étaient les éléments essentiels qui limitaient le rendement des machines à vapeur. C'était pas le fluide, c'était pas de faire des bielles comme ci, comme ça, c'était pas tout plein de détails techniques qui sont importants, mais qui finalement sont secondaires. Il a compris que la seule chose qui limite le rendement, c'est la différence de température entre une source chaude, en bleu, en haut, ce qu'il appelle le foyer, et un réfrigérant en bas. Entre les deux, il y a la machine. Et du côté droit, il y a de la chaleur qui passe d'en haut en bas, c'est-à-dire du foyer au réfrigérant, et la machine fournit de l'énergie. Et Carnot, très génialement, dit « Mais on pourrait peut-être faire le contraire. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire le contraire » C'est-à-dire fournir de l'énergie au système et faire remonter de la chaleur Q du réfrigérant au foyer. Il dit « Bien entendu, c'est tout à fait possible. On appelle ça aujourd'hui une pompe à chaleur. » Donc, il invente la pompe à chaleur sans le dire. Mais là où on voit le génie, c'est qu'il pose la question importante. Il dit, est-ce que je peux faire remonter plus de chaleur du réfrigérant au foyer qu'il n'en est descendu du foyer au réfrigérant? Et il dit non, c'est pas possible. Ça serait un mouvement perpétuel. Et en fait, il vient d'inventer la seconde loi de la thermodynamique sans le dire. Mais c'est ça. C'est pas lui qui a inventé le mot entropie, mais elle est là. Elle est là-dedans. C'est pour ça que je suis un si grand admirateur de Carnot. Et je rappelle que le mot entropie a été créé par Clausius. Il l'appelait S. Et certains pensent que le S, c'est pour Sadi Carnot, parce qu'on sait que Clausius avait comme livre de chevet le livre de Carnot. Il était un grand admirateur. Et alors, il dit, ça c'est très intéressant, je propose d'appeler cette quantité, c'est-à-dire l'entropie, d'appeler S. Il explique pourquoi. Et il dit, j'ai choisi délibérément ce mot entropie parce qu'il est tout à fait aussi similaire que possible au mot énergie. C'est la similitude des deux qui lui dit de choisir ce terme entropie. Et il ajoute, ces deux quantités, désignées par ces deux noms, sont reliées si intimement que leur signification physique est telle que leurs noms aussi doivent être similaires. L'Agence internationale pour l'énergie devrait en fait s'appeler l'Agence internationale pour l'énergie et pour l'entropie. Et ça serait tout à fait approprié à la physique que nous vivons aujourd'hui, puisque le problème aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt l'entropie que l'énergie. Ça, c'est la photosynthèse vue comme une machine de Carnot. Il y a les petits photons qui passent, qui arrivent du soleil, ils combinent l'eau et l'atmosphère, les CO2 de l'atmosphère, pour faire un sucre qu'on stocke ensuite. Bon, pour finir, si on est sérieux pour le photovoltaïque, on est bien obligé de dire que le problème du stockage est tellement critique qu'il n'est pas envisageable de mettre des photovoltaïques au pôle Nord. Parce qu'il faudrait stocker l'énergie pendant 6 mois. Et ça serait beaucoup trop cher. L'endroit le plus favorable, évidemment, c'est l'équateur, puisque sur un cycle de 24 heures, vous en venez à bout. Donc au maximum, vous devez stocker sur une période de 12 heures. Ce n'est pas terrible, et probablement même un petit peu moins, parce que la nuit, on a moins besoin que le jour. Bon. Donc ça, c'est, je vous mets nos extrêmes de l'équateur au pôle, mais vous posez la question pour l'Europe, et qu'en est-il de l'Europe ? Ce n'est pas terriblement favorable. Dans nos latitudes israéliennes, c'est déjà beaucoup mieux. En Afrique, c'est encore mieux. Et je crois que je vais à peu près terminer là-dessus. Je crois que c'est effectivement en Afrique que ça va se jouer. Dans les pays développés, 1 milliard d'habitants émettent environ 3 gigatonnes de carbone par an. Je veux dire pays développés, l'Europe, les États-Unis, le Japon. La Chine atteint presque ce niveau, l'Inde est en train de s'en rapprocher. Si l'Afrique en fait autant, on va passer de 10 gigatonnes aujourd'hui, probablement à 20 gigatonnes en 2040. C'est-à-dire, au lieu de baisser, ça va augmenter terriblement. Donc ça, c'est une priorité à l'échelle de la planète. Il faut absolument éviter ça. Et l'Afrique, elle a des bonnes données sur le plan des latitudes des pays concernés, puisque relativement, elle a besoin de pas trop de stockage. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande ce petit livre. Et puis pour finir, je vais dire un mot à la mémoire de Roger Ménard. C'est un grand ami, un grand physicien. Il a été président de la Société française de physique. Et ce petit livre, et ce que je vous ai raconté, doit beaucoup à des conversations que j'ai eues avec lui pendant une période probablement de 2 ou 3 ans. Malheureusement, il est mort d'une maladie assez méchante et très rapidement. Et on n'a pas pu mettre par écrit ce qu'on avait discuté. Donc j'ai fait ça pour sa mémoire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Je vais essayer de faire comme Antoine Compagnon. Je vais essayer de prouver que je suis encore capable de faire une présentation sans slide. Donc je vais essayer de ça. Et je le remercie ainsi que Ruth pour l'organisation d'un colloque où on parle d'archéologie, de littérature, de technologie et de problèmes de société, dans ce cas-là, pour l'énergie, et de physique, puisque la dernière présentation se fera autour d'un très, très, très joli problème qui anime la physique moderne. Alors, on a parlé donc de sciences humaines et sociales dans la première partie, donc ce qu'on va aborder maintenant, vous avez compris qu'on parle plutôt de sciences inhumaines et asociales, mais qui sont quand même faites par des hommes, et je rassure les gens qui s'inquiètent sur l'intelligence artificielle, même l'intelligence artificielle est quand même contrôlée par des hommes, et on ne remplacera pas le cerveau humain par un ordinateur avant probablement longtemps. En tout cas, ceux qui sont dans la salle n'ont rien à craindre de ce côté-là. Alors, le premier point, donc je vais faire passer quelques messages que David et Guy ont un peu présentés. Le premier point, l'énergie dans un pays, c'est quelque chose qui est l'exemple d'un débat extrêmement mal construit, extrêmement mal mené, et dont les solutions sont souvent absolument pas à la hauteur des problèmes. Et je pense que tous les pays, alors c'est le cas de la France, mais je ne connais pas le débat qui peut exister en Israël, mais je suis sûr qu'on retrouve ce type de débat, En tout cas, en France, c'est un débat qui est particulièrement mal mené parce que les questions qui sont posées ne répondent pas aux problématiques sous-jacentes. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Le premier, c'est ce que David a dit, c'est que le temps caractéristique d'évolution d'un système de production et de consommation d'énergie pour un pays, c'est de l'ordre de 50 ans. Aujourd'hui, en France, notre production, par exemple, électrique, principalement nucléaire et hydraulique, 80% nucléaire, 10% hydraulique, ou 75% nucléaire, 10-12% hydraulique, ça résulte de décisions qui ont été prises dans les années 60. Les barrages ont été construits entre 45 et 60. Tous les grands barrages en France ont été construits entre 1945 et 1960. Et les décisions sur le nucléaire ont été prises dans les années 60 et les constructions se sont faites dans les années 70. Donc nous vivons aujourd'hui dans un pays où l'ensemble du système productif d'électricité repose sur des décisions politiques qui ont été prises il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on débat d'énergie et on débat sans se rendre compte que le changement de notre système demandera au moins 50 ans pour être perceptible. Et je pense que dans beaucoup de questions, les réponses qui sont abordées n'ont pas conscience du fait que c'est tout petit par rapport aux changements que nous voudrions avoir, qui sont liés à ce que Guy a très bien expliqué, qui est que, en fait, le problème, il est plus un problème environnemental qu'énergétique, et que si on prend comme priorité les émissions de CO2, évidemment, il y a des décisions importantes à prendre. Alors, je vais donner juste un exemple. On focalise, et j'y reviendrai, la discussion autour, évidemment, de la production d'électricité, qui est un point très important. Mais l'électricité correspond à 25% de notre consommation énergétique. 25%. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le débat autour de l'éolien et le photovoltaïque, qui correspond en France à 5 ou 6% de la production d'électricité, correspondant qu'à 6% de 25%, c'est-à-dire 1 ou 2% de notre consommation énergétique. Donc on focalise les débats, on focalise les efforts et on focalise l'opinion publique autour de quelque chose qui aujourd'hui correspond à 1 ou 2% du problème. La grosse majorité des émissions CO2 viennent du transport, en grande partie, des bâtiments, en autre partie, et de l'agriculture. Donc il faut se rendre compte qu'on débat aujourd'hui de problématiques qui ne traitent pas de la question principale, alors d'autant plus qu'en France, notre énergie électrique émet zéro CO2, ou quasiment zéro CO2, parce qu'elle est en très grande partie nucléaire, qui produit de l'électricité sans CO2. Autrement dit, on focalise le débat autour du CO2, sur la production d'électricité qui n'émet pas de CO2. Ça fait partie des contradictions du débat. Alors, j'invite nos personnes qui débattent beaucoup de l'argumentation dans d'autres domaines. Voilà typiquement un endroit où l'argumentation est assez bizarre. On passe notre temps à discuter du CO2 sur des problèmes qui ne touchent pas le CO2. Donc, c'est quand même important. Alors, le point qui est quand même important aussi à noter, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. Alors, vous avez compris que je ne vais pas vous montrer ni d'équation ni faire de la physique, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous reteniez pour les gens qui ne sont pas scientifiques et physiciens dans la salle, mais qui est très important. Les hommes politiques et les médias adorent parler de puissance installée. On installe des gigawatts. On installe, je parle pour la production électrique, des gigawatts d'énergie solaire, et puis on parle, c'est équivalent de gigawatts d'énergie nucléaire ou d'énergie fossile ou autre. Alors, si les puissances sont des puissances, ce qu'on fabrique avec ces puissances, c'est de l'électricité qui se mesure en énergie. Et la mesure de l'énergie, ce n'est pas des puissances, c'est des puissances multipliées par des heures, c'est-à-dire des gigawatt-heures ou des kilowatt-heures. Ce qu'on consomme et ce qu'on utilise, c'est l'énergie, c'est donc des kilowattheures. Et ce n'est pas équivalent. Un gigawatt, par exemple, d'énergie solaire, et je suis, comme Guy, un fort partisan de l'énergie solaire, mais n'empêche que je suis fort partisan de l'énergie solaire, mais comme l'a montré David, j'ai beaucoup de mal à lutter contre les lois de la physique. Je ne suis pas le seul, mais je ne suis pas arrivé dans ma carrière à réussir à contredire les lois de la physique. Et la loi de la physique vous dit que si un gigawatt de solaire est installé, il produit environ 7 ou 8 fois moins d'énergie électrique pour la même puissance installée que 1 gigawatt installé d'énergie nucléaire ou d'énergie fossile. Alors, il faut le savoir, c'est pas une catastrophe en soi. Il faut juste installer 8 fois plus de puissance pour avoir la même énergie. Mais là, on tombe sur des choses qui sont terribles, parce que quand on met les chiffres en face, on n'équilibrera pas ce qu'on fait aujourd'hui dans le nucléaire en France par de l'énergie photovoltaïque, même si je suis un fort partisan de l'énergie photovoltaïque. En 20 ou 30 ans, il n'y a aucune possibilité technologique et réalité qui peut faire ça. Donc c'est un mensonge quand j'entends des hommes politiques dire qu'on envisage en France d'avoir 100% d'énergie renouvelable en 2050. D'abord parce que 100% d'énergie renouvelable, comme je vous le dis, l'électricité ne fait que 25%, et le reste, ben, c'est de l'essence qu'on met dans nos voitures, avions bateaux. D'autres utilisations qui ne seront pas remplacées du jour au lendemain par de l'électricité à 100%. Et même pour l'électricité, ce ne sera pas facile que de faire cette transition. Donc c'est quand même important, et ce n'est pas une bonne nouvelle, de savoir que quand on parle de transition énergétique, il y a cette incroyable pression environnementale de passer à moins d'émissions CO2. Mais aujourd'hui, on ne fait quasiment rien pour diminuer la production de CO2 dans un pays comme la France. D'une part, parce qu'on a une énergie qui déjà n'émet pas de CO2, mais qu'ensuite, quand la France s'est, entre guillemets, vantée d'avoir fait baisser ses émissions de CO2 pendant quelques années, les émissions de CO2 sont remontées ces deux dernières années, l'année dernière et cette année. L'émission de CO2 en France remonte, et elle remonte simplement parce qu'on est sorti d'une crise économique où on reprend une activité économique qui était en baisse, et que la raison principale de la baisse de CO2 des dernières années, ce n'était pas des volontés gouvernementales, c'était une diminution de la production industrielle et de la consommation des peuples. Voilà. Donc c'est juste pour essayer de vous faire passer des messages où on peut avoir des visions optimistes, mais on ne peut pas avoir des visions optimistes qui nient la réalité scientifique, technologique et économique. C'est un peu le sens de mon message, et que le débat sur l'énergie est un débat qui est particulièrement malmené de mon point de vue, c'est-à-dire qui ne pose pas ni les vraies questions et n'amène pas les vraies réponses. Alors, reprenons maintenant quand même sur ces énergies renouvelables, qui est quand même à très long terme, on se place à 50 ou à 100 ans, évidemment une solution potentielle pour le monde. C'est-à-dire essayer de produire l'énergie à partir du vent et du soleil et de la biomasse. C'est les trois principales. Et l'hydraulique, bien sûr, pour les pays. En France, on a à peu près épuisé notre stock de production, mais il y a des pays où il y a encore possibilité de produire de l'énergie électrique à partir des... Et donc l'électricité augmentera avec le temps, parce que l'électricité est un magnifique vecteur d'énergie, facile à utiliser, souple. Voilà. Donc les énergies renouvelables, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, elles ont effectivement un avantage, c'est qu'on utilise une source naturelle. Alors, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite parce qu'effectivement, il faut installer des installations, il faut les entretenir, mais il faut surtout les installer. Donc, il y a une problématique de capital qu'il faut ensuite, évidemment, amortir dans le temps. Donc, ça coûte quand même. Même si, effectivement, pour le photovoltaïque, il y a eu une spectaculaire baisse du coût d'investissement, donc du prix du kilowattheure fabriqué par le photovoltaïque. Mais ces énergies renouvelables, à part l'hydraulique qui est un peu idéale et qui dépend essentiellement de la géographie des pays, je vous rappelle par exemple que la Norvège doit être à 90% d'énergie hydraulique. Le Canada a une très forte production électrique d'origine hydroélectrique. En France, on est bien lotis, on est à 12%, on est bien lotis, l'Allemagne en a beaucoup moins. La Suisse est évidemment un pays de cocagne et ça marche assez bien. Mais à part l'hydraulique, les éoliens comme le photovoltaïque, ce sont ce qu'on appelle des énergies intermittentes, comme l'a expliqué Guy. Elles ne sont produites que partiellement dans le temps et de façon, entre guillemets, pas complètement contrôlable. On peut le prédire, mais on ne peut pas le contrôler. Et donc, il y a deux grands sujets à aborder. sur lequel on ne travaille pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que les principaux obstacles à la pénétration des énergies renouvelables sont des obstacles sur lesquels on ne fait quasiment rien. Le premier, c'est l'adaptation du réseau électrique à une production qui est forcément plus diffuse. Vous savez que l'électricité est distribuée sur un réseau, que la gestion de ce réseau est extrêmement importante parce que l'électricité a un problème, c'est qu'il faut fournir instantanément les mêmes quantités d'énergie que les gens consomment. Il faut toujours équilibrer à tout moment et à des échelles de temps petites comme longues la consommation et la production. Alors on sait faire, on le fait avec d'ailleurs un système mécanique, en gros ce sont les volants des turbines qui fabriquent l'électricité qui servent pour amortir à toutes les échelles de temps, mais il y a des limites. Et les énergies intermittentes demandent, ne permettent pas de l'électricité ne pouvant pas être stockée, les énergies intermittentes posent un problème, et il l'a dit, de stockage. Donc il faut à la fois adapter le réseau et en même temps envisager des méthodes de stockage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement rien n'est fait pour adapter le réseau. Les Allemands, qui sont face à un problème beaucoup plus grave que nous, savent très bien qu'ils ont un énorme problème de réseau, puisque lorsque leurs éoliens au nord produisent de l'électricité ou leurs panneaux photovoltaïques, plutôt en Bavière au sud, produisent de l'électricité, ils ont des problématiques de distribution de cette électricité dans le pays, entre le nord et le sud. Il faudrait installer des lignes de haute tension, forte intensité du nord au sud, et ça pose des problèmes environnementaux. Il faut traverser des champs, il faut traverser près de villes, et que ce n'est pas facile, l'adaptabilité sociale, l'acceptabilité sociale n'est pas simple. Donc en France, ça sera pareil. Il faudra adapter notre réseau. Et le deuxième, il faudra travailler sur des problématiques de stockage. Alors sur les problématiques de stockage, c'est assez intéressant de voir que, alors que tout le monde est conscient que ce sera l'un des grands problèmes à résoudre dans les 20, 30, 40, 50 ans qui viennent, personne n'y travaille. En tout cas, personne n'y travaille à l'échelle industrielle qui permette de mettre en place des solutions réellement valables au niveau industriel. Et pourquoi on ne travaille pas à l'échelle industrielle ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une surcapacité de production électrique. Autrement dit, une entreprise qui fabrique et vend de l'électricité, aujourd'hui, elle n'a aucun intérêt à travailler sur le stockage parce qu'elle a déjà trop d'outils de production. Donc, elle n'a pas besoin de stocker. Elle aura besoin de stocker dans 20, 30, 40 ans. Mais aujourd'hui, son problème, ce n'est pas ce qui se passera dans 30 ou 40 ans, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, qui s'occupe de ce qui se passe dans 30, 40, 50 ans ? C'est le rôle de l'État, c'est le rôle d'un gouvernement de s'occuper de ce qui se passe dans 30, 40 ans. Mais là, on tombe sur le problème du temps caractéristique. C'est que le temps caractéristique d'un homme politique n'est pas tout à fait adapté au temps caractéristique de l'évolution d'un système de production d'énergie dans un pays. Voilà. Donc, vous êtes des citoyens de France ou d'Israël ou d'autres pays. Votre responsabilité, notre responsabilité, c'est quand même de faire comprendre que l'énergie, c'est une problématique d'un pays, ce qu'on peut appeler une problématique régalienne qui dépend du pays. Et évidemment, si on prend le fait que c'est une propriété collective, une problématique collective et une problématique sur le temps long, on voit donc qu'il faut être extrêmement sérieux dans l'organisation des décisions qui ont trait à l'énergie. Et je fais partie des gens qui pensent qu'en France, nous ne sommes pas sérieux sur ce sujet-là et qu'on le payera tôt ou tard. Parce que si on se trompe, si on fait... Le plus simple, c'est de rien faire, ce qui est essentiellement ce qu'on fait en France, et de vivre sur ses acquis. Sauf que quand on ne fait rien, à un moment donné, il faut se réveiller. Et quand on se réveille, il faut 30 ou 40 ans pour remettre les choses d'aplomb. Et donc, on aura, je pense, en France, si on continue sur la voie où on est, quelques difficultés à remettre les choses dans l'ordre. Et je ne peux qu'être d'accord avec Guy sur le fait que, évidemment, l'entropie dans ce genre de choses, effectivement, joue un tout petit peu contre nous. Et donc, il faut travailler un peu pour remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Merci beaucoup.